Ce matin, je vais parler d'un sujet dont on ne parle pas souvent à l'Église. Il s'agit des anges. On ne parle pas souvent des anges. Et souvent, on voit des enseignements sur Internet, en particulier sur YouTube, qui sont totalement à côté de la plaque, qui sont complètement faux et qui racontent un petit peu n'importe quoi. Et comme par exemple des photos d'anges ou des choses de ce genre. Donc on va essayer de voir exactement ce que la Bible dit à propos des anges et l'intervention qu'ils font dans nos vies. Parce qu'ils ont une grande part à prendre dans le salut. Dans le salut. Les anges sont mentionnés près de 300 fois dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le mot qui signifie ange, en hébreu, c'est malak, ça veut dire messager. Donc les anges sont des messagers. Beaucoup de gens pensent que beaucoup de gens n'ont pas une très bonne idée de ce que sont les anges et pensent que tous les anges sont bienveillants ou malveillants. En fait, il y a deux catégories d'anges. Et les uns sont envoyés par Dieu pour nous aider, et on le voit tout au long de la Bible, des messagers qui sont envoyés pour aider le peuple de Dieu, en particulier en temps de guerre. Et il y a beaucoup de faits, beaucoup de circonstances, par exemple dans la vie de David, etc. Mais il y a également de mauvais anges qui cherchent à nous nuire et qui nous trompent et qui nous mentent. Donc souvent, on ne fait pas la différence. Il y a des chrétiens qui ne font pas du tout la différence et qui... Et ce n'est pas tout ce qui vient de tout ce qu'on entend qui est fatalement et vient des anges. D'abord, d'où viennent les anges? Les anges ont été créés, mais bien avant les hommes. Bien avant les hommes, le psaume 148 au verset 5 dit... Dieu a commandé et ils ont été créés. On ne sait pas à quelle époque les anges ont été créés. On ne sait pas à quelle époque. Mais tout à l'heure, Jean-Philippe, au moment de la présentation, a cité un texte que je voudrais reciter, qui est de Job, chapitre 38, versets 4 à 7. C'est Dieu qui s'adresse à Job et qui lui dit « Où étais-tu quand je fondais la terre ? Où étais-tu ?» Et plus loin, il dit « Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Donc ces étoiles du matin, ces fils de Dieu, ce sont les anges qui éclataient de joie en voyant la beauté de l'univers, en voyant tout ce que Dieu faisait. Donc, c'est la première manifestation où on voit les anges qui sont en action à côté de Dieu. Excusez-moi, je vais sortir ma montre parce qu'il n'y a pas d'horloge. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a deux catégories d'anges. Alors la première catégorie, donc les bons anges, leur caractéristique, c'est qu'ils obéissent à Dieu. Toujours, ils sont au service de Dieu et ils obéissent à Dieu sans discuter. Alors dans le psaume 103, versets 20 à 21, il est dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges » qui est puissant en force et qui exécutait ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Les bons anges obéissent toujours à Dieu. Ils obéissent à sa parole, ils obéissent à sa voix et ils font partie de ceux que la Bible appelle l'armée de l'Éternel. Et ils font toujours sa volonté. Donc les bons anges, en quelque sorte, sont des modèles pour nous. Parce qu'ils obéissent toujours à Dieu. Il y a une erreur que certains font dans certaines églises, c'est qu'ils invoquent et qu'ils prient ou qu'ils adorent les anges. En particulier, je me souviens dans mon enfance, je voyais des... J'étais élevé dans la religion catholique. On voyait beaucoup de gens qui avaient des images de l'ange Gabriel, de l'ange Michel, Saint-Michel, et qui priaient et qui demandaient à ces anges de les aider dans leur vie, de les protéger, par exemple. Il y a des chauffeurs de taxi, par exemple, qui collaient des images de Saint-Michel sur la voiture, quoi. Et ils disaient, bon voilà, il y a Saint-Michel qui garde la voiture, il n'y aura pas d'accident. Donc on peut rouler comme on veut. Et voilà, il y a un peu, c'est presque de la magie. Dieu nous interdit absolument de prier les anges, de les invoquer, d'invoquer leur nom. Il y a quelqu'un qui a essayé de le faire dans la Bible, c'est Jean. Jean l'évangéliste, c'est lui qui a écrit l'Apocalypse. Donc en Apocalypse 19, verset 10, nous le voyons qui est tellement émerveillé par l'ange qui lui montre toutes ces choses de la fin des temps que Jean va se prosterner à ses pieds, aux pieds de cet ange. Et cet ange va le reprendre très sévèrement et va lui dire « Adore Dieu ». À deux reprises, et également au chapitre 22, au verset 8 de l'Apocalypse, nous voyons que l'ange va reprendre sévèrement Jean qui a tendance à vouloir se jeter à ses pieds pour l'adorer. Il va lui dire « Garde-toi de le faire, garde-toi de m'adorer ». Je suis ton compagnon de service. Voilà ce que l'ange dit à Jean. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères. Alors, quelle est la principale occupation des anges ? Je parle, on est toujours dans les bons anges. Tout à l'heure, on verra ce que sont les mauvais anges et ce qu'ils font. Donc, dans les bons anges, la principale occupation des bons anges, c'est l'adoration. L'adoration, si nous prenons l'Apocalypse au chapitre 5, versets 11 et 12, et l'apôtre Jean va dire « Je regardais et j'entendis la voix des anges qui sont des serviteurs et des adorateurs de Dieu. » Je vais prendre le passage, Apocalypse 5, 13, « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, le pouvoir au siècle des siècles. » Donc les anges sont tout autour du trône, et continuellement, ils louent, ils adorent Dieu et ils le louent. Continuellement, on les voit. Et c'est un exemple pour nous. C'est un exemple, quand nous prions, adorons, prosternons-nous devant le Seigneur et faisons comme les anges, louons le Seigneur. Il y a beaucoup de chants. Tout ce matin, on a commencé par chanter nos voix unies à celles des anges déclarent que tu es le seul Dieu sauveur. Déjà ce matin, le premier cantique qui a été chanté, ça m'a un peu frappé, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si vous étiez au courant que j'allais prêcher là-dessus. Mais en tout cas, nos voix unies à celles des anges déclarent que tu es le seul Seigneur. Donc, quand nous chantons, quand nous louons le Seigneur, les anges sont là à côté de nous. Et même dans les cultes et partout où les chrétiens, les vrais chrétiens louent et prient, il y a des multitudes d'anges. Si le Seigneur ouvrait vos yeux spirituels, vous verriez des multitudes d'anges dans la salle. Mais là, vous ne les voyez pas, mais ils sont là. Dans Apocalypse, au chapitre 7, au verset 11 et 12, l'apôtre Jean dit que tous les anges se tenaient autour du trône des anciens et des quatre êtres vivants, et ils tombèrent la face contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu. Donc, l'une des principales tâches des anges, et ce que nous ferons aussi plus tard dans le ciel, l'une des principales tâches, c'est d'adorer Dieu, de se prosterner. Et ils disent « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. » Donc les anges ne cessent de répéter cela et de prier et d'honorer le nom de Dieu. Donc c'est quelque chose que nous devons faire aussi quand nous prions Dieu. Ne restons pas tout le temps fixés sur nos petits besoins. Oui, le Seigneur nous demande aussi de prier pour nos besoins. Mais souvent nous sommes polarisés par nos besoins, par ce qui nous manque, et nous disons « Seigneur, Seigneur, interviens, interviens, ceci, cela, je suis malade, je suis ceci, je suis cela. » Et on est tout le temps comme des mendiants, mais vraiment, si vous commencez à louer, à chanter, à proclamer le nom du Seigneur, vous allez vraiment voir une différence. Vraiment, je vous garantis, essayez, vous allez voir, essayez. Bien, alors, donc nous avons vu déjà qu'il y a une partie des anges qui sont des anges bons. Combien d'anges sont bons? Combien d'anges sont mauvais? Là, nous allons faire une petite étude mathématique. Je vous propose de prendre l'Apocalypse au chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12. Bon, si vous n'avez pas vos Bibles, je pense que vous avez la Bible sur votre portable. Eh bien, alors regardez sur votre portable. C'est ce que j'ai dit souvent aux jeunes Chinois. Au moins, si vous avez... pas votre Bible, prenez votre portable et la Bible que vous allez télécharger sur votre portable pour pouvoir la lire dans le métro aux heures d'affluence. N'est-ce pas?
Tout à fait.
Vous la lisez dans le métro aux heures d'affluence. Amen. Ouais. Alors donc, Apocalypse chapitre 12. Verset 3. Un autre signe apparut dans le ciel. Et voici un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur les têtes 7 diadèmes. Donc, ce grand dragon, je pense que même les enfants de l'école du dimanche pourraient me dire qui c'est. Donc, vous savez tous qui c'est. Ouais, il s'agit de Satan. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Tous les commentateurs de la Bible, à commencer par les pères de l'Église au 3e, 4e siècle, tous ceux qui ont étudié la Bible pendant des siècles, ont toujours vu ont toujours compris que c'est le moment où Satan a entraîné dans sa folie le tiers des anges. Le tiers des anges et les a entraînés dans sa rébellion sur la terre. Et nous voyons qu'il va y avoir une guerre dans le ciel. Au verset 7, il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon, et le dragon combattit lui et ses anges. Mais il ne fut pas le plus fort. Un peu plus loin, au verset 9, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, Satan a été précipité de là où il était, sur la terre. Il a été précipité et il n'était plus le chef des anges, il était devenu un démon. Que s'est-il passé en fait? Pourquoi Satan est-il devenu un dragon? Pourquoi est-il devenu aussi mauvais? Pourquoi a-t-il entraîné à sa suite le tiers des anges? Eh bien, la Bible nous dit qu'au départ, Satan n'était pas Satan. Oui, je crois que M. de la Palisse aurait dit la même chose. En fait, Satan était un très bel ange, et c'était le chef des anges. Son nom même était Lucifer. Lucifer, lux chifera, en latin lux ça veut dire la lumière, chifera, celui qui porte la lumière, ça a donné Lucifer, lux chifera, Lucifer. Alors qui est Lucifer? Comment Satan en est-il arrivé à entraîner à sa suite le tiers des anges? Nous voyons cela dans Ésaïe au chapitre 14. Si vous prenez Ésaïe, bon, alors pour certains, ceci est de la redite, hein. C'est des choses que vous connaissez déjà, pour d'autres, c'est de la nouveauté. Bon, alors je m'excuse pour ceux qui connaissent déjà ces choses, mais c'est peut-être bon aussi de relire la parole de Dieu et de revoir les choses, quitte à pouvoir les expliquer après à d'autres. Alors donc, dans Ésaïe au chapitre 14, au verset 12 à 15, on parle, quoi donc, dit Ésaïe, quoi donc, tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Dans astre brillant, dans la Bible latine, la Vulgate, c'est dans cette Bible latine, la Vulgate, qu'on trouve le mot lux chifere. Chifere, c'est l'infinitif de ce verbe. Lucifer, qui a donné Lucifer, astre brillant. Alors je reprends mes explications. Quoi donc? Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le dompteur des nations. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux, au plus profond du nord. En fait, quand Satan, ou plutôt Lucifer, puisque c'était le nom qu'il avait dans le ciel, quand il a vu qu'il était si beau et si proche de Dieu, et qu'il avait toute cette puissance, l'orgueil est rentré dans son cœur, et il a voulu supplanter Dieu, il a voulu prendre la place de Dieu. Nous voyons avec le recul, nous savons que c'était une folie, parce que Satan ou Lucifer était une créature, il ne pouvait pas prendre la place de Dieu, c'est une folie. Mais il a pensé qu'il pouvait prendre la place de Dieu, et c'est à ce moment-là qu'il a été précipité. Il a été précipité, et Satan disait dans son cœur, « Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts au plus profond d'une fosse. » Donc c'est au moment où Satan a cru qu'il allait supplanter Dieu, c'est à ce moment-là qu'il a été précipité de son trône dans la fosse. Et un peu plus loin, il y a un autre texte qui brièvement nous parle également de la suite de la chute de Satan. Nous voyons ça dans Ézéchiel, au chapitre 28. Ézéchiel, au chapitre 28, et au verset 12. Je lis la fin du verset 13. Je vais lire le verset 12. « Entonne une complainte sur le roi de Tyr. » Donc, Ézéchiel parle maintenant du roi de Tyr. Alors, ce roi de Tyr, donc, qui est en fait Satan, « Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. » Donc là, nous voyons un peu toute la gloire qu'avait Satan. Il avait toute une gloire sur lui, des pierres précieuses, de beaux habits, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Donc Satan, dans le ciel, avait vraiment tous les honneurs. Dieu l'avait comblé d'honneur, il était vraiment le chef des anges, et il était vraiment, comme il est dit, un chérubin protecteur. Donc alors c'est Dieu qui parle, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu te promenais au milieu des pierres ardentes, les pierres ardentes sont les autres anges, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. Donc, à un moment donné, Satan, l'orgueil est rentré dans le cœur de Satan, et il s'est dit, mais vraiment, toute cette richesse, toute cette beauté que j'ai, eh bien, elle est pour moi. Donc, je n'ai plus besoin de Dieu. Je vais prendre la place de Dieu. Et dans sa folie, Satan a voulu prendre la place de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'il a été précipité dans la fosse. Donc, je te jette par terre, c'est la fin du verset 17. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi, par la multitude de tes fautes, etc., etc. Et à la fin du verset 19, il y a cette phrase terrible, tu ne seras plus jamais rien. Tu ne seras plus jamais rien. Donc ça, c'est la chute de Satan. Mais malgré cette chute, malgré le fait que Satan ait été rejeté par Dieu, il croit, il pense toujours qu'il pourra avoir une revanche, qu'il pourra quand même essayer de vaincre Dieu. Et ne pouvant vaincre Dieu, Satan n'a qu'une idée, c'est de salir sa création. Et la première chose que Satan a fait, c'est que quand il s'est aperçu que Dieu avait créé un homme et une femme qui étaient heureux dans un jardin, Satan, la première idée qu'il a eue était de corrompre cette création de façon à se venger de Dieu. Et Satan a pensé qu'il allait toucher Dieu en faisant chuter Adam et Ève. Et voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles Adam et Ève ont été séduits, Ève d'abord, Adam ensuite, ont été séduits par Satan, sont tombés et sont restés sous la domination de Satan. C'est-à-dire qu'ils devenaient des esclaves de Satan parce qu'ils étaient tombés dans le péché. Mais ce que Satan ignorait, c'est que Dieu avait projeté de sauver le peuple, de sauver les hommes, par le sacrifice de Jésus. Satan ne savait pas que Dieu allait utiliser ce moyen de libération. Il ne le savait pas. Et quand Jésus est venu sur la terre, eh bien, Satan a toujours pensé qu'il allait séduire Jésus pour le faire pécher, pour le faire tomber. C'est la raison pour laquelle il a essayé de séduire Jésus pendant les 40 ans de jeûne. Excusez-moi, je suis fatigué. Oui, vous avez bien fait de me reprendre. Vous avez bien fait. Pendant les 40 jours de jeûne dans le désert, à la fin de ces 40 jours, donc, Satan va venir, il va vouloir tromper Jésus en lui demandant de l'adorer en échange de tous les royaumes de la terre. Donc, l'apôtre Pierre, chapitre 2, 2 Pierre au verset 2 et 4, au chapitre 2 au verset 4, il dit « Si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, il les réserve pour le jugement. » Donc si Dieu n'a pas épargné les anges, à plus forte raison devons-nous faire attention à notre conduite, à la façon dont nous nous conduisons. Donc, et l'apôtre Jude dit que, Jude au chapitre 1, verset 6, l'apôtre Jude dit que Dieu a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Les anges qui ont abandonné leur propre demeure, et ils sont donc actuellement enchaînés dans l'abîme et dans les ténèbres. Mais alors, il y a tout de suite, il y a une question qui se pose. Mais alors, si Satan et ses sbires, et ses acolytes, je ne sais pas comment on peut dire, et tous ceux qui les ont suivis, c'est-à-dire ces démons, s'ils sont enchaînés dans les ténèbres, comment se fait-il qu'ils puissent continuer à nous nuire, à nous tenter, à nous causer des embûches? Comment se fait-il qu'ils puissent avoir encore la latitude de nous attaquer sur la terre comme il le fait en ce moment, et il ne s'en prive pas? Eh bien, Satan, du fond de l'enfer, il continue à œuvrer pour le mal. Et Dieu a permis, lui a donné une certaine latitude, de la même façon que Dieu a permis que Satan tente Ève et Adam. Dieu a permis, Dieu aurait pu enlever cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu a mis cet arbre comme un test et il a permis que Satan tente nos premiers parents. Et de la même façon, Satan continue à nous tenter, à nous causer des embûches, de la même façon. Mais dans ce combat spirituel qu'il y a sur la terre, l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 12, nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire, on n'a pas à lutter contre des gens. Vous n'avez pas à lutter contre vos voisins, contre les gens de votre famille, contre vos amis, contre les gens d'une autre nation. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Là, nous voyons qu'il y a une hiérarchie dans le monde spirituel, dans le monde démoniaque. L'apôtre Paul donne une série de noms, et il y a toute une série de gens qui sont comme des grades, comme une armée, en fait, une armée avec des lieutenants, des capitaines, des commandants, etc., etc. Donc, le but de Satan, comme je l'ai dit tout à l'heure, était d'emmener le plus d'âmes possible en enfer. Vous êtes tous dans le collimateur de Satan. Et chacun de vous est une proie dans l'esprit de Satan. Il désire prendre l'âme de chacun d'entre vous. Il désire vous prendre et vous emmener en enfer à tout prix. C'est sa manière de se venger de Dieu. Mais si nous, nous ne sommes pas vigilants, si nous ne sommes pas vigilants dans la prière, dans le jeûne aussi, si nous ne sommes pas vigilants sur notre conduite, sur notre manière de faire, nous pouvons être des poids faciles dans les mains de Satan. Seulement, Dieu nous a donné des moyens de nous défendre, et parmi ces moyens, nous avons ces anges que Dieu met à notre service, ces anges sont au service de Dieu, pour nous aider dans la vie chrétienne. Et si nous vivons une vie intègre avec le Seigneur, si nous faisons passer les choses de Dieu avant nos propres désirs, si nous mettons Dieu en premier dans notre vie, nous sommes protégés. Seulement, si nous flirtons avec le mal, seulement si pour nous le péché est juste un moyen de... comme un amusement, quoi, vous me comprenez ? Eh bien, à ce moment-là, on est en danger. Donc, Dieu nous a donné un moyen de... Dieu nous demande de discerner les esprits. Le discernement des esprits, c'est un don spirituel que Dieu nous donne parmi les différents dons qui est cité dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12. Parmi les dons importants pour un chrétien, il y a le discernement des esprits. C'est quoi le discernement des esprits ? Je vais vous donner un exemple. Je me souviens, il y a bien longtemps, j'étais dans une petite ville du nord Cameroun qui s'appelle Gaoundéré. Et j'étais missionnaire là dans cette petite ville. Je m'occupais, c'est là où est née ma fille. Ma fille Rachel est née dans cette ville. Il y a un homme un soir qui se présente à moi à la fin d'une réunion et qui me dit « Vous savez, pasteur, je suis un homme très connu, je suis un grand prophète, je fais des miracles extraordinaires, je viens du Congo-Brazzaville, je suis vraiment regardé, vraiment, et moi, je vais vous aider, faites une réunion, je vais prier pour les malades, et tout ça. » Dans mon cœur, le Seigneur me disait, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas vrai ce qu'il dit. Je sentais dans mon cœur que ce n'était pas vrai. Il insistait et il me disait, oui, je suis vraiment, j'ai un grand ministère, je fais des miracles, je fais des choses. Et par la suite, j'ai dit, bon, on verra, je n'ai pas insisté. Peu de temps après, dans la semaine, je tombe sur un prospectus et je vois la photo de cet homme sur un tract. Et sur cette photo, on disait que c'était un très grand guérisseur et un sorcier qui faisait des choses extraordinaires, qu'il fallait aller le consulter. Il y avait sa photo. J'ai parfaitement reconnu. Donc cet homme se faisait passer, cet homme qui était un sorcier se faisait passer pour ce qu'il n'était pas. Et donc, j'avais eu ce discernement des esprits que ce n'était pas ce qu'il disait. Bon, alors là, c'est un cas extrême, mais chacun de nous, nous pouvons être confrontés à ce genre de situation. Chacun d'entre nous. Donc, L'Épître aux Hébreux, d'abord au chapitre 1 et au verset 14, nous dit que les anges, là il s'agit des bons anges, Dieu les envoie pour exercer un ministère en faveur du peuple de Dieu. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère? Donc souvent les anges sont à nos côtés, on ne les voit pas, et ils nous protègent, ils nous aident dans le discernement, et ils nous permettent parfois de ne pas faire d'erreur, ils nous protègent d'accidents. Vous connaissez tous ce verset qui dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Je vois vraiment que beaucoup connaissent ce verset. Oui. Je reviens aux bons anges. Alors, les bons anges dans l'Ancien Testament, nous les voyons à de nombreuses reprises apparaître. Par exemple, un jour qu'Abraham est assis devant sa tente, il y a trois hommes qui se présentent à lui. L'un, c'est l'Éternel, et les deux autres sont des anges. Et ce sont trois hommes tout à fait ordinaires qui se présentent devant lui. Et l'Éternel va dire à Abraham, et Abraham ne va même pas se rendre compte qui est devant lui. Et l'Éternel va envoyer les deux anges qui sont avec lui brûler la ville de Sodome, Sodome et Gomorre. Et ces deux anges vont rentrer dans Sodome, ils vont rencontrer Lot, et Lot va croire que ce sont des hommes ordinaires, et ces deux anges vont les faire sortir de la ville. Et les autres habitants de Sodome, eux-mêmes, vont croire aussi que ce sont des hommes, et vont vouloir leur faire violence. Donc, les anges, quand ils interviennent dans la vie des humains, souvent, ils prennent la forme des humains. Nous devons réaliser que souvent, Dieu utilise les anges pour nous aider. Alors, je vais vous donner quelques exemples concrets, des choses qui me sont arrivées à moi ou qui sont arrivées à d'autres personnes. Une première chose qui m'est arrivée, mais je l'ai déjà racontée ici, peut-être que comme tout le monde n'était pas là quand je l'ai racontée, c'est il y a de cela 22 ans, je prêchais un séminaire à des jeunes dans la ville de Tibati. La ville de Tibati, c'est une ville qui se trouve au centre du Cameroun. Et très très longtemps après, j'ai su que c'était le centre spirituel de la sorcellerie au Cameroun. Ça, j'ignorais complètement cette chose. Et ce soir-là, donc, je prêchais à des jeunes. Et puis, je suis sorti dans la nuit. Là, il n'y avait pas d'électricité, mais il y avait... magnifique panorama d'étoiles. Donc, là, je me suis mis à regarder les étoiles dans le champ qui était à côté de l'église. Et pendant que je marchais à reculons pour regarder les étoiles, je me suis senti aspiré par l'arrière. Je suis tombé dans un trou. Sur le coup, j'ai juste eu le temps de crier « Jésus, sauve-moi ! » Et je me suis retrouvé aspiré et je suis tombé dans un trou qui faisait près de 7 mètres de profondeur. Je suis tombé assis dans le trou. C'est un puits qui avait été creusé, mais comme il n'y avait pas d'eau, ils avaient laissé le trou comme ça. Et après, j'ai su que beaucoup de gens mouraient de cette façon, en tombant dans des trous. Moi, je n'avais pas une égratignure. J'ai senti juste comme quelque chose qui me freinait, qui me tenait dans le dos. Et je suis tombé assis, je n'avais rien du tout. J'ai crié au secours et des gens sont venus, m'ont lancé une corde et m'ont fait sortir de là. Et après, quand je me suis regardé, le lendemain, quand j'ai vu ce trou, j'en revenais pas. C'est un peu comme si j'étais tombé de l'appartement de Marc dans la rue, quoi. C'est un peu comme ça, quoi. Et par la suite, j'ai vu l'intervention des anges dans ma famille d'une manière absolument extraordinaire. L'année dernière, il y a deux de mes petits-fils, Théo et Victor, il y en a un, il avait 16 et 17 ans, qui roulait. Donc l'aîné venait d'avoir son permis. Et il roulait sur une route déserte de la Sarthe, une route de campagne, mouillée. Et il roulait très vite. À un moment donné, la voiture a dérapé. Elle a fait plusieurs tonneaux. Elle est tombée sur le toit et elle a explosé. Mes deux petits-fils sont sortis de la voiture sans aucune égratignure. Quand la police est arrivée, ils ont dit, mais vous étiez vraiment dans la voiture? Ils étaient un peu soupçonneux. Ben, évidemment, ils ont vu que les habits étaient déchirés et puis qu'il y avait quelques contusions. Et là, ils ont compris que c'était vraiment les anges. Les anges qui avaient aidé. Alors, on peut multiplier les cas. Il y a une vingtaine d'années de ça, et ça se passe au Congo-Kinshasa. Au Congo-Kinshasa, il y avait en brousse une école d'enfants de missionnaires. Il y avait 200 enfants de missionnaires dans cette école avec leur professeur. C'était en pleine brousse. Et il y a une armée de rebelles, à peu près d'une centaine de rebelles, qui s'approchaient pour brûler l'école et tuer les enfants et les professeurs. Et quand ils se sont approchés de l'école, ils sont repartis en courant. Alors que les professeurs et les élèves étaient à genoux dans l'école en train de prier, ils sont repartis en courant. Le lendemain, ils sont revenus jusqu'à l'école et après ils sont repartis en courant. Ça c'est... Et la troisième fois, il y a l'un des assaillants qui a été blessé et il a été venir se faire soigner à l'hôpital de la mission. Et alors les missionnaires infirmières ont demandé, mais pourquoi vous n'avez pas attaqué l'école? Pourquoi vous n'avez pas fait de mal? Ils ont dit, on était dans l'impossibilité de nous approcher de l'école parce qu'on a vu des centaines de soldats habillés en blanc qui gardaient l'école et qui nous visaient avec leurs armes. Et on n'a pas pu s'approcher. Et en Afrique, les soldats ne se mettent jamais en blanc. Jamais, jamais, jamais en blanc. Donc les gens ont compris que c'était des anges. Et à aucun moment, ils n'ont pu s'approcher et il y a eu après un grand réveil dans cette région. Mais le fait le plus extraordinaire, c'est ça s'est passé dans une autre région d'Afrique, mais ça c'est au 19e siècle, cette histoire est racontée par Billy Graham dans son livre « Les anges, agents secrets de Dieu ». Il y a un couple de missionnaires qui vient dans une région d'Afrique où personne n'était encore allé. Et dans cette région, il y avait des hommes cannibales. Vous savez, c'est quoi les cannibales? Vous n'en avez jamais rencontré, moi non plus. Et donc... Les missionnaires sont allés évangéliser cette tribu. Donc ils sont arrivés le soir, ils ont demandé l'hospitalité, évidemment le chef de la tribu les a reçus. et ils leur ont prêté une case pour la nuit. Donc le couple, l'homme et la femme, se sont installés dans la case. Et donc ils ont prié, et ensuite ils se sont couchés. Vers minuit, ils sont réveillés par un bruit de tam-tam. Boum, 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 boum. Ils regardent à travers les pailles, pour voir ce qui se passait. Ils voient les hommes de la tribu qui les avaient reçus en train de tourner autour de la case avec des machettes, des arcs, des flèches et des torches dans le but de les attraper. Vous savez pourquoi? Donc, quand ce frère et cette sœur missionnaire ont vu ça, se sont mis à genoux et ils ont commencé à prier et à demander au Seigneur d'intervenir. Et pendant toute la nuit, les guerriers ont fait le tour de la case. Et ils n'ont jamais pu s'approcher de la case. Le lendemain, le missionnaire a commencé à prêcher. Et dans la région, il y a eu un grand réveil. Un très grand réveil. Au bout d'un an, il y avait plein de baptêmes. Ils avaient fait plein de baptêmes dans le fleuve. Il y avait des centaines de gens qui s'approchaient et qui rentraient dans le fleuve pour se faire baptiser. Et à ce moment-là, le chef du village, le fils du chef du village, il a posé cette question au missionnaire. Dites-moi, pasteur, le jour où vous êtes venu dans le village, le soir, qui étaient tous ces hommes qui étaient au-dessus de votre case? On ne les a jamais revus. Ils nous menaçaient avec des flèches. C'était des guerriers. Ils avaient des flèches, des piques, et tout autour de la case. Et si on s'était approché, ils nous auraient frappés. On n'a jamais revu ces hommes. Qui c'étaient ces hommes? Comment avez-vous pu les faire venir? Vous avez deviné. Donc ces hommes ont... le missionnaire leur a dit, mais vous savez, c'était des anges. Parce que nous on n'a rien vu. On n'a absolument rien vu. C'était des anges. Et après, donc, il y a eu ce réveil. Donc c'est pour vous dire que bien souvent, Dieu envoie ses anges, il nous protège de toutes sortes d'accidents. Moi, je pourrais vous passer la journée à vous raconter des trucs incroyables où les anges sont intervenus. Et ils interviennent dans vos vies. Mais souvent, parfois, à votre insu. À votre insu. Des accidents de voiture qui sont évités in extremis. Par exemple, la semaine dernière, j'ai aidé une jeune fille chinoise, Alina, c'est une américaine chinoise, a préparé l'étude biblique de la semaine dernière. Et elle me racontait que quand elle avait 2 ans, un jour qu'elle jouait avec sa mère et son père et sa mère sont missionnaires en Chine. Quand elle jouait avec sa mère, elle avait 2 ans, elle a sauté par la fenêtre. En arrière, en jouant, elle a traversé le rideau, elle est tombée du 2e étage dans la rue. Alors ça, la mère était sûre qu'elle était morte. Tout le monde a couru, a crié, et elle s'est relevée. Comment expliquer ça? Si ce n'est des anges qui ont freiné... Et c'est une belle jeune fille de 19 ans. Peut-être que quelques-uns l'ont vue. Elle s'appelle Alina. Eh bien, voyez-vous, Dieu envoie ses anges encore à l'heure actuelle. Mais il y a une condition. Il faut que nous ayons une vie intègre. Il faut que nous mettions Dieu en premier dans la vie. Il faut que nous soyons sérieux avec la prière. Pas de prière bâclée, juste avant le repas. Et ça nous soulage et puis c'est fini pour la journée. Il faut que nous soyons des lecteurs assidus de la parole de Dieu. Il faut que nous cherchions le Seigneur de tout notre cœur. Il faut que nous marchions avec lui. Et là, nous allons voir des choses extraordinaires. Et Dieu, c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous, il y a des choses difficiles qui s'approchent. Peut-être que certains ont vu les vidéos sur l'île de Saint-Martin ou dans d'autres endroits où il y a eu ces cyclones, ces tornades et tout. Ce n'est que le commencement des douleurs. Nous devons nous préparer parce que les temps difficiles arrivent. Et si nous ne sommes pas préparés dans la prière, si nous ne sommes pas sérieux, nous allons nous faire déborder. Voilà. Donc je n'insiste pas plus, parce que moi je dois aller à l'église chinoise. Et je vais juste prier, nous allons prier. Et je vous demande de fermer les yeux et d'examiner vos cœurs. Examinez vos cœurs. Si vous voyez qu'il y a eu un manquement dans le domaine de la prière, dans le domaine du sérieux, si vous voyez que ça n'a pas toujours été comme vous vouliez, que vous avez péché contre Dieu, c'est le moment de confesser ces choses. Et Dieu va vous libérer. Dieu est prêt à vous libérer, à vous donner beaucoup plus que vous ne pensez. Prions maintenant. Seigneur, purifie-nous. Seigneur, tu vois nos cœurs ce matin. Libère-nous. Il y a bien des choses qui ne vont pas dans nos cœurs. Purifie-nous, Seigneur. Libère-nous. Que nous soyons tels que toi tu veux que nous soyons, Seigneur. Non pas comme le monde veut, mais comme toi tu veux. Seigneur, ce monde n'a rien à nous donner que la mort et la mort éternelle. Mais toi, tu veux nous donner la vie. Seigneur, pardonne-nous. On a été si négligents, si paresseux à prier, à te chercher, à chercher d'abord notre confort et nos aises. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes tels que toi, tu veux que nous soyons. Merci de nous purifier maintenant dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.